Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur BAC FM 106.1 et vous écoutez le dernier numéro d'une série de trois émissions consacrée à l'épreuve de philosophie du BAC. Ces émissions sont assurées par Clément, Elisabeth et François, respectivement professeurs à Raoul Follereau, Alain Colas et Jules Renard. Lundi, vous avez pu entendre une explication d'un texte de Hegel sur l'art. Hier, Elisabeth et Clément ont traité le sujet « Des raisons de croire sont-elles nécessaires ?» et aujourd'hui, nous allons du côté de la cité et nous nous posons la question avec Clément, la politique est-elle l'affaire de tous ? Alors bonjour Clément.
Bonjour François.
Alors, je rappelle que donc c'est une série d'émissions qui sont consacrées aux épreuves du baccalauréat, donc nous allons essayer de traiter ce sujet en guidant d'un point de vue méthodologique nos élèves qui pourraient écouter nos émissions. Alors, lorsque nous avons à traiter un sujet, donc nous sommes dans la première, tout premier temps, nous sommes en train de préparer notre introduction. Quelle est la première étape, finalement, face à un tel sujet ?
Alors, peut-être que même avant même de définir les principaux termes du sujet et de faire apparaître un lien problématique entre ces principaux termes, ici, donc, tu as dit, le sujet, c'est la politique est-elle l'affaire de tous ? Les principaux termes, en somme, c'est la politique est l'affaire de tous, et il va falloir faire apparaître un lien problématique, une difficulté entre ces deux termes. Peut-être la première chose à faire, déjà pour l'élève, c'est de rapporter le sujet, ici c'est évident, aux notions du programme. Bon. Et en réalité, donc il est question de la politique vient chapeauter d'autres notions, mais il est aussi question d'État, de la raison, de la technique, de la société, de la justice. Donc il y a beaucoup de notions qui sont comprises dans ce sujet. Donc ça permet peut-être pour l'élève de faire revenir quelques références, quelques idées, quelques cours. Et ensuite, effectivement, la deuxième étape consiste à définir le sens des principaux termes du sujet pour jouer sur la polysémie des termes, en dégager toutes les significations. Alors si on commence par le mot politique, on peut dégager deux sens principaux du mot politique. La politique au sens étymologique, c'est disons l'art de former des cités, l'art de faire même cité au sens actif, de faire vivre les gens ensemble sans qu'ils se tapent dessus, sans qu'ils s'entre-déchirent au bout d'un certain temps. Et Dieu sait que ce n'est pas facile, que c'est compliqué. Et puis un deuxième sens du mot politique qui n'est pas à exclure, à mettre de côté, mais qui n'est peut-être pas le plus important central ici, qui est la politique comme art de parvenir au pouvoir et de s'y maintenir. Ici, l'auteur clé, ce serait sans doute Machiavel, qu'il faudrait mobiliser.
On pourrait peut-être d'ailleurs distinguer ici la politique et le politique. C'est-à-dire la politique au sens de l'activité des politiciens, pour aller vite, et le politique au sens au premier sens que tu as évoqué, c'est-à-dire l'art de finalement créer une cité, au sens de la maintenir dans son existence.
Oui, et distinction aussi qui peut-être recoupe la distinction qu'on trouve dans les distinctions conceptuelles ou les repères que les élèves ont à maîtriser entre en droit et en fait. Bon. La politique, c'est la politique telle qu'elle est pratiquée dans les faits. Le politique, c'est peut-être dans l'idéal. En somme, c'est la théorie politique.
Ou la fin visée par la politique.
La fin visée par la politique. Et ça peut permettre par ailleurs de problématiser en montrant l'écart entre la politique de fait. Et là, pour le coup, sans doute que on voit bien que ce n'est pas l'affaire de tous, qu'il y a de l'abstentionnisme, qu'il y a beaucoup de gens qui se démobilisent politiquement, à distinguer de l'idéal politique. Bon. Alors, ça permet aussi de faire l'articulation avec le terme « affaire de tous ». Cette politique, au deuxième sens, politique politicienne, où certains hommes politiques font de la politique leur profession, leur métier, leur gagne-pain, et au sens, leur affaire, au sens d'un business juteux, parvenir à une position rémunératrice, etc. Donc il va falloir évidemment éviter ce genre d'écueil. Alors l'affaire de tous, comment comprendre ce terme-là ? De plusieurs manières. D'une part, l'affaire, c'est ce dont on se préoccupe, c'est ce qui nous concerne, d'une part. C'est aussi l'affaire au sens d'une affaire judiciaire, c'est-à-dire le cas à juger, le problème à débattre. Et puisque la politique, c'est l'art de faire cité, c'est l'art de vivre ensemble, apparemment, c'est l'affaire de tous, puisqu'on fait tous partie de la cité.
Alors, finalement, est-ce qu'on peut pas distinguer deux sens derrière cette expression « affaire de tous » ? Un sens où nous serions concernés par la politique à titre de destinataire, on pourrait dire, à titre de gouverné, et un sens plus fort, peut-être, en tout cas distinct, nous serions concernés par la politique cette fois-ci peut-être à titre de gouvernant, c'est-à-dire en prenant une part active aux affaires de la cité.
Oui, passivité, activité, distinction entre être objet de la politique et sujet de la politique, effectivement. Et la politique donc nous concerne tous, en ce sens que chacun donc subit les lois, quoi qu'il en soit, du pays dans lequel il vit, sans pour autant nécessairement être capable d'exercer le pouvoir, de prendre le pouvoir. Et on va problématiser à partir de ce point-là, ce qui suppose sans doute des compétences à plusieurs niveaux. Et donc je vais problématiser à partir de là. J'aimerais souligner aussi que ce qui est important dans une introduction, c'est pas seulement d'indiquer de d'indiquer la problématique en une phrase et de se dire tiens super voilà j'ai indiqué ma problématique, c'est de faire apparaître la difficulté, de faire apparaître un obstacle.
Et oui, on rappellera jamais assez finalement que ce qui compte avant la problématique, c'est l'analyse, c'est-à-dire la manière d'y parvenir. C'est le chemin qui nous mène à cette problématique.
Alors je vais essayer ici une méthode inverse, c'est-à-dire que je vais commencer par donner ma problématique et montrer de quelle manière on peut essayer de la faire apparaître. Bon, alors je donne une première formulation. En somme, comment faire en sorte que la politique soit réellement l'affaire de tous, puisque dans l'idéal, c'est quand même l'objectif à atteindre, sans qu'elle ne coïncide avec un exercice du pouvoir lié à l'incompétence. Bon. Ou, d'une autre manière, autrement dit, comment faire en sorte que le pouvoir soit exercé par des hommes compétents, tout en restant pleinement l'affaire de tous. Bon. Et pour faire donc apparaître, pour dégager cette difficulté, on pourrait commencer donc par dire la politique est la prise en compte par tous des problèmes de tous. Elle renvoie à la délibération des membres de la cité concernant les problèmes, les points qui concernent tout le monde. Bref, la politique vise l'intérêt général et donc apparemment ça concerne tout le monde. Bon, on n'échappe pas à la politique, ne serait-ce que comme objet de la politique, comme gouverné. Nous sommes des êtres sociaux gouvernés par des lois qui ne tombent pas du ciel. Mais d'un autre côté, et là on voit que c'est plus compliqué que cela, lorsqu'on pense politique, on pense aussi homme politique. Bon. Il y a une professionnalisation de la chose, il y a des spécialistes, des experts, des politologues, des théoriciens politiques, des professionnels de la politique, des gens qui font de la politique leur métier. Et cela donc demande du temps, d'une part, cela demande de l'intérêt, peut-être aussi, et des compétences juridiques, techniques, rhétoriques, protocolaires, on y reviendra. Bref, ça suppose un savoir, et il y a ceux qui font de la politique et ceux qui n'en font pas. Donc c'est en opposant ces deux thèses, qu'on peut toutes les deux argumenter, qu'on fait apparaître la difficulté. Et il va falloir essayer de dépasser cette difficulté dans une troisième partie pour proposer une solution.
Alors si on le dit un peu autrement, finalement, tu es parti ici de l'opinion commune, on pourrait dire, de l'évidence. Oui, la politique est bien l'affaire de tous. Comment est-ce qu'il pourrait en être autrement? Nous sommes tous concernés par les affaires de la cité, en tant que citoyens, individus vivant dans cette cité. Mais évidemment, ça pose ce problème qui est celui de la compétence. Donc il s'agit de dépasser l'opinion commune, et tu vas proposer une troisième partie, effectivement, où il s'agira de résoudre cette contradiction entre l'évidence que la politique nous concerne tous et le problème de la compétence qui est quand même posée, qui se pose singulièrement.
Alors il y a sans doute plusieurs manières, peut-être trucs ou astuces, pour faire apparaître une difficulté ou pour faire apparaître un obstacle. En tout cas, il s'agit toujours de remettre en question un préjugé, de remettre en question l'idée du sens commun, ce qu'on a tendance à penser spontanément ou faire apparaître une difficulté conceptuelle. Qu'on se positionne d'abord par rapport au sens commun lorsqu'il s'agit d'un sujet fermé, en l'occurrence ici c'est le cas, ou lorsqu'il s'agit d'un sujet ouvert où on va procéder d'une autre manière en faisant apparaître des présupposés, et donc on va retomber sur quelque chose comme du sens commun qu'on va essayer ensuite de remettre en question.
Tout à fait.
Alors, pour terminer l'introduction, il est bon aussi de mentionner des enjeux, sans trop étendre son introduction. Il faut que ça ait une certaine tenue, une dissertation, hein, c'est pas un essai, c'est pas un livre, vous n'allez pas ensuite le présenter à un éditeur. Donc il faut que ça ait une certaine tenue. Néanmoins, ici les enjeux sont importants. Alors d'une part, il est question des affaires, et on devine bien que certains hommes politiques font leur affaire de la politique. Ainsi, de plus en plus d'individus s'abstiennent d'aller voter ou disent tout bonnement que la politique ne les intéresse plus, que tout ce milieu donc est pourri, en somme. Et le deuxième problème, c'est une sorte de confiscation au nom de la compétence du pouvoir politique, de l'exercice politique, par des techniciens, par des experts, de tout un tas de questions. On a découpé, en somme, tous les problèmes politiques en spécialité. Et des experts viennent à chaque fois proposer leur solution technique, la meilleure solution technique, et du coup, il n'y a plus d'alternative.
Ce qu'on appelle la technocratie.
Ce qu'on appelle la technocratie.
Bien, alors, nous sommes arrivés, disons, au terme de notre introduction, et c'est le moment où on va engager notre développement. Donc, partons donc de cette première partie qui concerne, on pourrait dire, j'ai appelé ça tout à l'heure l'opinion commune, hein, sur laquelle, effectivement, la politique, c'est bien ce qui nous concerne tous, en un sens, disons, immédiat. Alors, est-ce que tu peux proposer des premiers arguments pour étayer cette thèse ?
Alors, en philosophie, on recherche toujours, finalement, un idéal, la meilleure réponse, la meilleure solution. Donc, on va partir, souvenez-vous de cette distinction en fait et en droit, et on va partir plutôt sur la perspective en droit. Et donc, dans l'idéal, la politique devrait être l'objet de tous, parce qu'elle intéresse, elle se préoccupe de l'intérêt public. Bon, il est question d'intérêt général, et l'intérêt général, c'est l'intérêt de tous. Bon. Donc, il faudrait distinguer les problèmes d'ordre public, d'intérêt général, et les problèmes ou les intérêts privés particuliers. Les lois s'appliquent à tous. Et donc, puisqu'il est question d'intérêt général, il n'est pas question de spécialité, c'est pas un problème de spécialiste. Bon, ce serait la première idée. Un petit point aussi, peut-être truc et astuce, lorsqu'on a du mal à argumenter positivement sa thèse, des fois c'est dur de démontrer une évidence, puisque précisément ça saute aux yeux, donc c'est on va dire une argumentation négative, autrement dit, montrer que la thèse adverse est difficilement soutenable ou qu'elle conduit à des conséquences qui sont difficilement tenables.
Ce qu'on appellerait un raisonnement par l'absurde.
Un raisonnement par l'absurde, oui, ou par élimination. Et on voit difficilement pourquoi on exclurait certains individus du pouvoir politique, de l'exercice politique, au nom de quoi. Donc la politique devrait être ouverte finalement à tous les avis et chacun devrait pouvoir y prendre part. Alors, ce qui est général n'est pas une affaire de spécialistes. On a dit que la politique c'est l'art de faire cité, de vivre ensemble. Et en somme, il suffit d'être capable de vivre avec les autres pour avoir les compétences suffisantes, pas seulement nécessaires, suffisantes pour faire de la politique. Et je m'appuierai ici sur un texte de Platon. Tiré de son dialogue le Protagoras, alors Platon avait l'art de mettre en scène des sophistes, ses adversaires, et en l'occurrence ici dans ce dialogue il donne la parole à Protagoras qui est un sophiste qui a existé, et Protagoras déploie au sein d'un mythe, le mythe de Prométhée, nous met dans la situation suivante, je résume très rapidement la situation, les hommes ont été sauvés finalement de la mort, de leur destruction, par le vol de Prométhée qui a donné ensuite la technique, le feu, l'habileté technique aux hommes. Les hommes se sont donc protégés contre l'attaque des bêtes féroces. Mais ils ne sont pas encore à l'abri de leur autodestruction. Autrement dit, ensuite, l'ennemi de l'homme, c'est un autre homme. Bon. Donc les hommes se font la guerre, les hommes s'entre-déchirent et risquent de disparaître ou de périr. À ce moment-là, Zeus intervient par l'intermédiaire d'Hermès et dit à Hermès de distribuer aux hommes la justice, en grec ça se dit diké, et le respect ou la pudeur, eidos. Et ce qui est intéressant, c'est que Hermès demande à Zeus, si mes souvenirs sont bons, est-ce que je dois donner ces compétences?
Dois-je répartir ainsi la justice et la pudeur parmi les hommes ou les partager entre tous?
Ou les partager entre tous. Et la réponse est
Entre tous, répondit Zeus.
Entre tous.
Que tous y aient part.
Pour la simple bonne raison qu'effectivement, la vie en commun, c'est pas une affaire de spécialiste. À la différence de la construction d'un navire, pour reprendre, de la fabrication d'une chaussure, pour reprendre des exemples que prend souvent Platon. Donc il faut donner la justice à tout le monde et la pudeur à tout le monde, sans quoi quelqu'un est incapable de vivre avec les autres. Et la politique, c'est d'abord ça, en somme. Alors pourquoi la justice, rapidement? En somme, la justice ici, c'est d'abord la capacité à respecter une règle. Lorsqu'on vit avec les autres, on fixe une règle et on a besoin de s'y tenir. Par exemple, si on se met ensemble pour une expédition, pour partir à la chasse, et lorsque la bête féroce arrive, finalement, quelqu'un ne se tient pas à la règle, et puis vous vous retrouvez tout seul face à la bête féroce, bon, vous voyez bien qu'on a besoin de se tenir et de respecter la règle pour vivre ensemble. Donc la justice, c'est d'abord le respect de la règle, c'est indispensable, et puis la pudeur, ce serait la capacité à se limiter, à se contenir, à rester en retrait, à écouter les autres, à pas occuper tout l'espace. Bon, un homme, donc c'est bien cela, un homme, ça s'empêche. Hein. Bon. Donc ce serait cette première idée. Une deuxième idée, c'est que, au fond, on le voit, ça ne nécessite pas de compétences particulières et que l'homme vit, quoi qu'il en soit, toujours au milieu d'autres hommes, dans une cité. Et Aristote nous dit, autre philosophe de l'Antiquité, nous dit que l'homme est naturellement un animal politique. Par ailleurs, il dit que c'est un animal politique, ça pose problème, c'est-à-dire que c'est un animal. Aussi, c'est pas un être.
C'est son genre.
C'est son genre, d'accord. Politique, ça signifie justement qu'il vit en communauté, qu'il vit avec les autres, et le fait de vivre avec les autres lui permet de déployer ses capacités, de s'actualiser, de devenir pleinement un homme. Bon, il dit que quelqu'un qui vivrait seul, en somme, serait soit une bête, soit un dieu. Bon. Et il va plus loin.
Je rappelle ouais. qu'il dit ça au début de la politique.
Au début de la politique,
au début
oui.
du traité de les politiques, même, plus précisément.
Tu as raison, pleinement raison de le souligner. Et Aristote va plus loin, propose un argument, voire deux, même intéressant pour soutenir finalement l'idée. Je donne ici une formule, elle n'est peut-être pas bonne, qu'il y a une compétence de l'incompétent. La formule est claque, mais elle est peut-être mauvaise dans le sens où elle ne précise pas quelle est cette compétence et s'il s'agit bien d'une compétence. Pourquoi y a-t-il une compétence de l'incompétent ? C'est que au fond, il ne s'agit pas d'avoir une spécialité technique pour être capable de juger de la pertinence d'une loi, du caractère fonctionnel d'un objet technique, etc. Alors peut-être que tu peux...
Alors je vais effectivement citer le texte qui est extrait du troisième livre des politiques. Aristote dit « Il y a certaines réalisations pour lesquelles leur auteur ne saurait être seul juge, ni même le meilleur juge. Nous voulons parler de César, dont les productions peuvent être appréciées en connaissance de cause, même par des personnes étrangères à l'art en question. Ainsi, la connaissance d'une maison n'appartient pas seulement à celui qui l'a construite, mais meilleur juge encore sera celui qui l'utilise, en d'autres termes, le maître de maison. Et un pilote portera sur un gouvernail une meilleure appréciation qu'un charpentier, et l'invité jugera mieux un bon repas que le cuisinier. » Donc au fond, finalement, tu disais compétence d'incompétent, mais peut-être compétence de l'usager aussi, d'une certaine
manière.
Oui,
c'est ça. C'est que l'usager est... non pas peut-être plus, mais aussi légitime à porter un jugement sur la qualité d'un produit, par exemple d'un plat. Le dernier exemple que donne Aristote, c'est celui d'un cuisinier, que le cuisinier lui-même.
Alors, nous allons faire une première pause musicale. Tu as choisi un premier morceau qui s'intitule...
Town Called Malice, du groupe The Jam.
Time is short, life is cruel, but I have to rush to
Vous êtes toujours sur Bac FM 106.1 et vous écoutez une émission consacrée au baccalauréat, à l'épreuve de philosophie du baccalauréat. Et nous écoutons Clément qui traite un sujet sur la politique. Plus précisément, la politique est-elle l'affaire de tous ? Alors, nous sommes à la fin de notre première grande partie. Tu viens de donner plusieurs arguments permettant d'étayer, disons, la thèse la plus évidente, celle de l'opinion commune, sur laquelle la politique est évidemment l'affaire de tous. Et nous venons d'évoquer un extrait de la politique d'Aristote, où il montre finalement que l'usager, puisque nous sommes tous finalement des usagers de la politique, en un certain sens, nous sommes tous des gouvernés, donc objets des politiques, destinataires, que finalement c'est peut-être l'usager qui peut juger mieux que celui qui crée,
oui,
en l'occurrence la politique, en question.
Oui. Alors, il prend l'exemple de la maison, de quelqu'un qui habite une maison. On pourrait dire, il y a la maison des lois. La cité, c'est la maison des lois. Quand vous habitez dans une maison, vous apercevez rapidement qu'elle n'est pas fonctionnelle. Si le toit prend l'eau, si les cloisons prennent l'eau, si le toit est trop bas pour que vous puissiez passer dessous, si toutes les prises sont du même côté, vous allez bien vous apercevoir que c'est pas fonctionnel. Et l'architecte a beau prétendre que si il connaît bien son métier, vous pouvez lui dire que non, c'est pas une bonne maison. Bon. Donc c'est pas fonctionnel, ça ne marche pas, et au fond, quand même, l'objectif de la politique, c'est de faire en sorte que la cité se maintienne, bon, que les hommes parviennent à vivre ensemble sans se déchirer. Pour autant, ce n'est pas parce que vous êtes légitime à donner votre avis sur un objet technique, sur une maison, sur un plat, comme vous pouvez le faire sur TripAdvisor, par exemple, comme on vous amène souvent à le faire, pour améliorer la qualité du service. Faudrait peut-être que les politiques s'inspirent de ce genre de plateforme. C'est pas pour autant que vous êtes capable de fabriquer une maison. Pas pour autant que vous avez le savoir technique du maçon ou du cuisinier. Bon. Et par conséquent, il serait erroné de croire que tout le monde est capable, au fond, d'exercer un pouvoir politique, c'est-à-dire de délibérer, de prendre des décisions, d'avoir un pouvoir législatif. En somme, pour cela, il faudra avoir des compétences dont on peut essayer de faire une liste qui n'est pas exhaustive, par exemple des compétences juridiques, des compétences en économie, des compétences en histoire, des compétences rhétoriques, c'est-à-dire il faut prononcer des discours, il faut savoir manier le verbe, des compétences aussi anthropologiques, connaître l'homme, etc. Et par ailleurs, on entend souvent dire justement que les hommes politiques seraient incompétents en économie, notamment. Bon. Donc, puisque ça nécessite tout un tas de compétences, on pourrait presque diviser le champ politique en autant de spécialités. C'est ce qui caractérise justement le travail d'un technicien, c'est que un technicien, c'est toujours un spécialiste. Et on va donc diviser la politique en différents domaines, et on va, quelqu'un va se spécialiser dans un domaine en particulier pour être le plus efficace. Bon. Et donc on va avoir une politique de technicien, ou tout du moins les politiques vont s'appuyer sur des cabinets d'experts, sur des techniciens, des spécialistes du domaine en question, et vont un peu déléguer la réflexion politique, ou le soin même de prendre des décisions. Je crois que c'est ce qu'on appelle le décisionnisme, il me semble. C'est une forme particulière de technocratisme, de technocratie. Les politiques vont déléguer le soin à des techniciens de prendre les décisions, en somme.
Alors, ce qui m'intéresse dans ce que tu es en train de dire ici, c'est que, et c'est une remarque méthodologique ici, c'est que finalement, tu es en train de faire varier, et c'est bien ça le but d'une dissertation, le sens même de politique ici. Puisque tu es passé du statut des gouvernés, qui, évidemment, qui s'intéressent en tant qu'usagers, disons-nous, à la politique, ici, au statut du gouvernant. Donc la politique en tant qu'activité qui vise à construire cette cité, la maintenir en vie grâce à des compétences précises. C'est donc ce problème de la compétence qui nous a fait entrer de plein pied dans la deuxième partie, dans ton rang 2. Alors, est-ce que, au-delà de ce problème des compétences techniques, est-ce qu'il n'y a pas une compétence plus fondamentale qui est appelée par le politicien ?
Donc, je vais répondre à ta question juste auparavant. Cette spécialisation induite par la technique, en somme, ça conduit, si on pousse ça jusqu'au bout, à ce qu'on appelle le solutionnisme, et ça semble vider la politique donc de sa fonction, de son but. Le solutionnisme, ce serait l'idée selon laquelle tout problème est réductible à un problème technique qui doit recevoir une solution. Bon. Et là où je veux en venir avant de répondre à ta question, c'est que un philosophe grec du XXe siècle qui s'appelle Castoriadis a écrit un livre qui s'appelle La montée de l'insignifiance, où déjà, je crois que c'était dans les années 90 qu'il avait publié ce livre, mais c'était valable déjà pour la décennie qui précédait. Il n'y a plus de politique. En somme, si la politique, ça consiste à se demander quelles sont les fins auxquelles on veut parvenir, qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne, par exemple, ou quelles sont les valeurs qui permettent de déterminer une politique. Si la politique, c'est réductible à des solutions techniques, en somme, il n'y a plus de politique. Raison pour laquelle, sans doute, les gens s'en désintéressent. Alors, effectivement, ça implique du coup d'autres compétences, notamment s'intéresser aux valeurs. Et donc, par exemple, des compétences anthropologiques. Connaître l'homme, savoir ce qu'est un homme. Donc c'est la question des valeurs et la question aussi de la morale qui ici prend une place centrale. En somme, la politique, c'est l'art de faire citer. Si on ce n'est pas simplement finalement une question de compétence ou de savoir théorique, c'est aussi une question de pratique. Si on est incapable d'une part de savoir ce qu'est le juste et ce qu'est le bien et de se comporter de manière juste et bonne, eh bien à vrai dire effectivement la cité court à sa catastrophe. Et le philosophe ici qui peut nous être utile, c'est Platon. Et Platon finalement ne dissocie pas le théorique du pratique. L'idée de Platon, il me semble, c'est que quand on a compris ce que c'est que la justice, on ne peut pas ne pas la désirer. Bon, donc on est automatiquement poussé, finalement, à l'accomplir. Ceux qui se comportent de manière injuste, c'est ceux qui ne savent pas ce que c'est que la justice et que finalement c'est un bien. On pourrait, par exemple, dans la République, penser au mythe de Gigès. Gigès, donc, qui est ce berger qui trouve un anneau d'or, qui a le pouvoir de le rendre invisible, effectivement, avec ce pouvoir d'invisibilité, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas lui qui possède l'anneau, c'est l'anneau qui le possède, un peu comme Gollum je me rappelle plus le titre de ce...
Le Seigneur des Anneaux.
Dans Le Seigneur des Anneaux, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait de ce pouvoir, automatiquement? Il va, donc, pénétrer le royaume, et finalement séduire la reine et tuer le roi. Bon, ce que nous dit Platon, c'est que, au fond, Gigès n'a rien compris. Quelqu'un qui sait ce que c'est que le juste, forcément, l'accomplit, le réalise.
Alors, ici tu fais référence à Platon, alors on a déjà fait référence à Platon, il faut bien rappeler d'ailleurs que dans la première partie, l'extrait du Protagoras, c'était Protagoras qui parlait, tu l'as rappelé tout à l'heure, hein, c'est le sophiste. Ici, donc, on approche de la solution qui est celle de Platon lui-même, qui consiste à dire finalement que la politique, c'est certes une question de savoir, mais d'un savoir d'un autre ordre que la compétence technique, hein, c'est ce que tu as bien développé ici, qu'on pourrait appeler finalement un savoir philosophique. Hein. C'est la thèse classiquement appelée celle du philosophe roi.
Oui. Alors même si, effectivement, je crois, Platon, dans La République, ou dans d'autres textes, ne parle jamais, on ne trouve pas l'expression de philosophe roi.
Oui, c'est une expression qu'on prête à... C'est
une expression, oui, effectivement, qu'on prête à Platon. Et le philosophe doit gouverner, la première raison pour laquelle le philosophe doit gouverner, c'est précisément parce qu'il ne désire pas gouverner. Il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent, ils risquent de se l'accaparer, de le confisquer, d'en faire un mauvais usage. Donc il faut, c'est presque finalement un reculon que les philosophes font de la politique. Et ce qui intéresse un philosophe, l'étymologie le dit, c'est comprendre, c'est la sagesse, c'est le savoir. Ce qui préoccupe un philosophe, c'est de connaître ce qui est la vérité, le beau, le juste, le bien. Et si il faut donner le pouvoir donc au philosophe, c'est parce que lui a le désir de savoir ce qui est juste. Je ne sais pas si finalement, pour Platon, on peut dire que le philosophe sait ce qui est juste. En tout cas, il a ce désir de savoir ce qui est juste, cette passion. Et ça renvoie à une anthropologie. Autrement dit, chez Platon, il y a ce qui est juste. La définition de la justice, c'est chaque chose à sa place. Donc, il y a une organisation de la cité qui doit correspondre aussi à une organisation, une répartition, on va dire, des désirs humains. C'est ce qu'on trouve dans la République, où pour comprendre ce que c'est que la justice dans l'homme, on a qu'à prendre, voir ça sur un modèle plus gros, autrement dit, sur la cité. Qu'est-ce que c'est la justice en un homme? En somme, c'est chaque chose à sa place. Autrement dit, il faut que le désir de sagesse gouverne. Il faut ensuite que le désir de gloire, en somme, se mette au service de ce désir de connaître, ce qu'il appelle donc le thumos, et puis le désir sensuel, les désirs charnels, eux, soient vraiment soumis à l'instance qui doit commander. Et si c'est le désir charnel, en somme, qui commande, la cité et l'individu est cul par-dessus tête, il faut pas s'étonner si ensuite il y a de la corruption, si ensuite c'est l'intérêt privé qui domine et si la raison finalement est bafouée.
Tu disais tout à l'heure que chez Platon, finalement, l'aspect théorique et l'aspect pratique sont unis, disons, en un seul art, hein, qui serait ici celui de l'art politique. C'est d'autant plus vrai, me semble-t-il, que lorsque, dans un traité un peu moins connu, un peu moins lu de... Enfin, traité, pardon, un dialogue un peu moins lu de Platon, qui est le politique, moins lu que la République, hein, auquel tu as fait référence, Platon utilise une métaphore qui est celle du tissage, hein, où il s'agit de créer, finalement, et on a toujours cette expression-là dans notre langage, le tissu social. Hein, il s'agit, pour le philosophe politique, de mener une action qui vise à constituer ce tissu en fonction pour le dire simplement, des caractères des uns et des autres. Et en ce sens-là, sa connaissance du juste, ou du moins son aspiration au juste, se traduit bien par une action pratique qui est celle de ce tissage métaphorique, disons.
Oui, et le tissage implique aussi que chaque individu se comprenne peut-être aussi comme une maille de ce tissu et pas comme une pièce isolée qui ne pense qu'à elle. Alcibiade, ce serait finalement le personnage historique politique qui a existé, qui a été par ailleurs l'amant, ou Socrate, qui a été l'amant de Socrate, lui-même maître de Platon, qui faisait de la politique son affaire. En somme, un jeune avec les dents longues qui veut prendre le pouvoir sans avoir jamais réfléchi finalement à ce que c'est que la justice, à ce que c'est que le bien. Et Socrate se fait fort de le montrer, de le mettre dans la contradiction. Et donc, effectivement, avant de se lancer dans la politique, il va falloir déjà qu'il apprenne, qu'il comprenne ce que c'est que le juste, pour aussi le désirer.
Alors, est-ce que il y a un risque, malgré tout, à cette conception platonicienne qui met en avant cette notion de compétence, pourrait-on dire, hein, même si on a vu la valeur élevée de cette compétence, qui n'est pas une simple compétence technocratique? Est-ce que, malgré tout, on peut ici trouver une limite à cette thèse, ce qui est, encore une fois, rappelons ce point méthodologique, l'objet d'une dissertation, à la fois argumenter, étayer une thèse et en voir les limites?
Alors, pour le coup, lorsque l'examinateur, le correcteur corrige une copie, il ne fait pas une évaluation idéologique, bien évidemment. La philosophie, c'est peut-être pas d'abord, mais essentiellement un art, la capacité à argumenter. Donc, il évalue les arguments. Néanmoins, c'est difficile d'en rester à Platon, puisqu'il est, pour le coup, antidémocratique, antidémocrate. Bon, et est-ce que on ne pourrait pas quand même essayer de remettre en question la thèse platonicienne? Alors pour deux raisons. La première, c'est cette idée de ce que Platon appelle, de ce qu'on appelle le naturel philosophe, ce que je rappelais tout à l'heure. En somme, le philosophe désire savoir et il faut lui donner le pouvoir parce que précisément il n'en veut pas. Bon. Mais au fond, est-ce que parvenu au pouvoir, le philosophe ne va pas lui-même être un petit peu corrompu? Est-ce qu'il ne va pas devenir orgueilleux? Et il faut peut-être pas trop compter sur ce naturel philosophe. Là, peut-être que Platon se berce un petit peu d'illusions et seuls les philosophes peuvent y croire. Bon. Donc là, c'est peut-être pas très convaincant. Et puis la deuxième raison, c'est que ça repose sur une anthropologie qui consiste à nous dire finalement qu'il y a un groupe d'individus, les philosophes, naturellement philosophes, qui eux sont animés par un désir particulier, qui est, donc il y a trois désirs, hein, comme je l'ai précisé tout à l'heure, un désir particulier qui domine, qui prédomine, qui est le désir de vérité, le désir de sagesse. Est-ce qu'au fond, c'est une anthropologie qui tient? Est-ce que tout le monde n'est pas capable, et c'est quand même là-dessus que repose l'idéal démocratique, est-ce que tout le monde n'est pas capable de se servir de sa raison, d'être rationnel, de dépasser ses passions, et donc de pouvoir s'élever vers une forme de rationalité qui lui permet de prendre des décisions, de saisir ce qui peut être bon dans l'intérêt général, etc.
Alors, nous allons faire une deuxième pause musicale. Tu as choisi comme deuxième morceau...
Donc, Whatever, d'Oasis.
And I'll blues and I'll sing the blues if I want.
Vous êtes toujours sur BAC FM 106.1 et vous écoutez le dernier numéro d'une série de trois émissions consacrées à l'épreuve de philosophie au baccalauréat. Clément est en train de traiter donc le sujet « La politique est-elle l'affaire de tous ?» et nous en sommes arrivés au seuil de la troisième partie. Nous avons montré dans la deuxième partie que la question de la compétence, finalement ici centrale dans ce sujet, s'imposait à nous. Et il s'agit toutefois de ne pas en rester à une forme d'aristocratisme, on pourrait dire platonicien, hein, où seuls quelques-uns, ceux qui ont un naturel philosophe, tu rappelais cette expression, hein, peuvent gouverner.
Oui. Et alors on précisait tout à l'heure en transition, le but c'est de pointer des difficultés, ce qui permet de justifier d'en passer à une autre partie. Bon, ne pas faire de saut brusque d'une partie à l'autre. Et un autre élément qui permettrait de faire la transition, c'est-à-dire une difficulté de la thèse précédente, c'est l'hétéronomie dans laquelle se trouvent ceux qui vont vivre dans la cité platonicienne, en somme, qui sont privés totalement du pouvoir de décider, et on ne va pas entretenir, cultiver leur capacité rationnelle. Bon. Donc l'idéal, ça va être de résoudre nos deux difficultés. En somme, essayer de donner le pouvoir comme sujet politique et pas seulement, bien évidemment, comme objet politique au plus grand nombre de citoyens, voire à tous les citoyens, voire à tous les individus d'un corps politique, sans pour autant livrer le pouvoir à l'incompétence. Et on a vu qu'effectivement, si le risque en livrant le pouvoir à la compétence est de le confisquer qu'ils soient confisqués par des technocrates, ou alors de priver les individus de leur liberté, d'une part, et aussi peut-être empêcher qu'ils développent leur raison, leur esprit. Donc l'idéal, ça consisterait à faire en sorte, finalement, repartir de notre première thèse, première partie, et essayer de tenir compte de ce qu'on a dit dans la deuxième pour l'amener plus loin. Bon. Et l'idée qu'il faudrait défendre, c'est que la politique doit essayer par tout un tas de dispositifs qu'il faut imaginer, qu'il faut inventer, qui peuvent changer d'une époque à l'autre. Donc d'imaginer par des dispositifs, faire en sorte par des dispositifs, pardon, que les individus puissent développer leur capacité rationnelle, puissent mettre de côté leur égoïsme, leur amour-propre, leur intérêt uniquement privé pour s'élever à l'intérêt général.
Alors, ici, nous sommes en train de rencontrer un auteur, me semble-t-il, qui est, je te laisse développer ici, sur ce point.
Alors, en l'occurrence, un auteur qui serait peut-être bon à mobiliser ici, ce serait Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau qui, on va dire...
Je m'en doutais que c'était lui.
Tu t'en doutais, oui. Bon, Rousseau qui écrit le contrat social, donc c'est ici essentiellement qu'on trouve ça... mais pas seulement, hein, sa théorie politique, sa philosophie politique, il va essayer de concilier d'une certaine manière, sous le nom de ce qu'il appelle, alors on ne retrouve pas ce vocabulaire-là sur Rousseau, sous l'autonomie, le fait finalement que lorsqu'on obéit à une loi, on ne fait rien d'autre finalement qu'obéir à soi-même, puisque c'est la loi qu'on s'est fixée à soi-même, et obéir à la loi qu'on s'est à soi-même donnée, condition que ce soit une loi rationnelle que tout le monde peut, à laquelle tout le monde peut souscrire, finalement c'est ça la liberté. Ce serait Rousseau finalement qui serait le premier à développer cette conception, tu me dis si je me trompe, cette conception de la liberté comme autonomie, autrement dit comme, qui s'oppose du coup à l'hétéronomie qu'on pourrait pointer du doigt chez Platon, comme autonomie, autrement dit comme capacité à se donner à soi-même ses règles. Et l'obéissance à la règle qu'on s'est prescrite est liberté, nous dit Rousseau. Et pour ça, il faut réussir à s'élever, à se dégager du particulier, à viser l'universel, à développer sa raison. Et ça implique, finalement, on reste dans une logique passionnelle. On était avec Platon du côté du désir. Il va falloir réussir à mettre de côté l'amour propre, l'orgueil, c'est-à-dire la préférence qu'on se donne à soi au détriment des autres. On voit bien que c'est une passion asociale. Pour le coup, qui crée de la discorde, qui fait que les hommes s'entre-déchirent. Passion asociale, c'est vraiment ça, finalement, je crois, le cœur de la politique rousseauiste. C'est que la société est construite de telle sorte qu'elle met les hommes en opposition les uns avec les autres, en état toujours de se comparer, et du coup, ils ne raisonnent pas, ils ne réfléchissent pas, ils sont éloignés de leur faculté rationnelle. Le but, ce serait de contenir finalement cette logique de l'amour propre pour développer l'amour de soi. L'amour de soi, c'est le désir que chaque individu a de se conserver dans l'existence. Et finalement, cet amour de soi nous permet de dégager des règles, des nécessités qui seraient valables pour tous les hommes et nous permettraient de parvenir à l'intérêt général. Et donc, comme le dit Rousseau dans le contrat social, ce n'est pas en additionnant les intérêts particuliers, et peut-être même les avis particulier, qu'on parvient à l'intérêt général.
Alors je peux d'ailleurs citer cet extrait du contrat social très célèbre, hein, où il dit qu'il y a souvent bien de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale. Celle-ci ne regarde qu'à l'intérêt commun, l'autre regarde à l'intérêt privé et n'est qu'une somme de volontés particulières. Mais ôtées de ces mêmes volontés les plus et les moins qui s'entre-détruisent, reste pour somme des différences la volonté générale. Donc effectivement, la volonté générale, ce n'est en rien l'intérêt de tous. L'intérêt de chacun, même si on additionnait cet intérêt pour en faire un intérêt de tous, comme on dit.
Donc le but, c'est bien de développer nos capacités rationnelles. Et quelqu'un qui s'inscrit au XXe siècle, qui est le philosophe finalement, alors on le connaît peut-être assez peu en France, mais qui est le philosophe le plus lu, je crois que sa théorie de la justice est l'ouvrage philosophique le plus lu au XXe siècle, qui est John Rawls, s'inscrit dans cette logique du contrat social, dans la politique rousseauiste, et en somme, il nous invite à penser les choses de cette manière-là. Voilà un dispositif, une expérience de pensée auquel il faudrait se livrer pour parvenir à dégager l'intérêt général. C'est ce qu'on appelle, ou c'est ce qu'il appelle, John Rawls, la position originelle, ou ce qu'on appelle le voile d'ignorance. Autrement dit, pour parvenir à des lois, à des règles, à des institutions auxquelles tout le monde puisse souscrire, qui puisse convenir à tout le monde, il faut se mettre dans la situation suivante. Voilà, on va fonder ensemble une société, une communauté politique, et on ne sait pas encore quelle place on occupera dans la société politique qu'on va construire. Et on ne sait pas, par conséquent, si on sera un homme ou si on sera une femme, si on sera un jeune ou si on sera un vieux, si on sera en bonne santé ou si on sera handicapé, si on sera riche ou si on sera pauvre. Et donc celui, par exemple, qui, alors ça peut sembler scandaleux, mais toujours se plaint que les places en centre-ville sont réservées aux handicapés et qu'on ne peut pas se garer, et ben qu'il se mette à la position de l'handicapé, il serait bien embêté si dans la société à venir il serait handicapé, il n'aurait pas de place pour se garer, il serait obligé à chaque fois de faire de longues distances qui lui sont impossibles à parcourir. De la même manière, le riche, s'il ne se met pas par une expérience de pensée dans la situation du pauvre, sans doute voudra supprimer toutes les lois qui défendent les droits des travailleurs, etc. Et si par malchance dans la société à venir il se trouve dans la situation du travailleur, ben bonne chance à lui.
La thèse que tu es en train de défendre dans cette dernière partie, finalement, c'est que la citoyenneté, l'exercice de la citoyenneté n'a rien d'immédiat et d'évident.
Oui, oui, oui. C'est quelque chose finalement qui se travaille, qui demande une formation.
Qui se construit finalement.
Qui se construit.
Le citoyen se construit.
Se construit. Donc contrairement à ce qu'on pouvait penser dans la première partie, on avait l'impression que les compétences étaient données. Il n'y avait pas à se donner du mal. Si, il faut quand même se donner du mal. Et la politique, là, les politiques peuvent ici créer des dispositifs qui permettent aux individus de développer cette rationalité. Les inviter à être rationnels et pas les maintenir toujours dans la situation de les infantiliser. Je pense par exemple à une initiative qui n'est pas française, mais qui en France est développée et promue par Jacques Testard. C'est ce qu'on appelle les conférences de citoyens. Bon. Et à l'occasion de ces conférences de citoyens, ce Jacques Testard, je vais rapidement ensuite expliquer le protocole, la procédure de ces conférences de citoyens, il dit que les individus développent une humanitude. Bon, alors l'expression est peut-être mal trouvée, ou elle renvoie, et peut-être c'est inspiré de Ségolène Royal qui sur la muraille de Chine avait parlé de cette bravitude. Bon, les mots qui se terminent en ude renvoient à une forme de dimension. Ça nous met dans une dimension particulière. On produit de l'intelligence collective. On est mis en situation d'être intelligent, de penser au sens commun. On est responsabilisé. Et comment est-ce qu'on est mis dans cette situation? Les conférences de citoyens s'organisent de la manière suivante. On va prendre dans la population civile, tirer au sort 500 personnes, un peu à la manière des jurés finalement. Parmi ces 500 personnes, on va demander quels sont les plus motivés. Il faut que les gens soient motivés quand même, parce que ça va être exigeant. Qui est motivé pour participer, pour réfléchir à un problème sociétal, ou alors pour réfléchir à l'application d'une technique qui pourrait modifier une situation. Et on va ensuite recruter une vingtaine de personnes seulement, de tout milieu professionnel, de tout bord politique, et leur demander de se former. Autrement dit, pendant 3 week-ends successifs ou 4 week-ends successifs, ils vont assister à des conférences, ils vont devoir lire des articles sur un problème en particulier, et donc se former. Tu disais, c'est pas donné, ça nécessite des efforts, ben là ce serait le cas. Et au cours du dernier week-end de formation, ce seraient les individus eux-mêmes sélectionnés qui demanderaient à entendre certains spécialistes qu'ils n'auraient pas pu entendre. Et au terme du dernier week-end, ils seraient amenés à rédiger un rapport, et ici il y a deux possibilités, soit les politiques sont obligés de l'appliquer, soit au contraire, ils doivent en tenir compte, mais ne sont pas obligés de l'appliquer tel quel. Et ça permet de responsabiliser les citoyens, et ce serait aussi plutôt que de rester simplement dans un système de démocratie représentative, d'insérer quelque chose d'un petit peu plus direct.
Alors, en arrivant ainsi à la fin de notre parcours, nous pouvons peut-être résumer finalement la démarche qui a été la tienne en disant que la notion de politique recouvre, on pourrait dire, presque toute une gamme d'activités différentes, depuis peut-être la simple information. Hein, la politique est-elle l'affaire de tous ? Oui, en tant que gouverné, je dois m'informer des politiques qui sont menées, des problèmes politiques qui sont posés à notre pays, etc. Jusqu'à, disons, un engagement qui est celui que tu viens de décrire avec l'expérience proposée par Jacques Testard. Et donc, finalement, ce terme de politique qui semble finalement assez simple, assez courant, assez évident, recouvre une série de sens différents, depuis, on pourrait dire, un sens plus passif jusqu'à un sens beaucoup plus actif.
Et pour conclure, pour ne pas lasser l'auditeur, redire ou synthétiser tout ce qu'on a dit, en somme, en conclusion, il faut donc donner sa réponse que la réponse soit bien claire, soit bien explicite, et récapituler les démarches, les principaux arguments qui nous ont permis de venir à cette solution, d'en arriver à cette solution, on pourrait aussi dire que faire participer tout le monde à la politique, dans des conditions, dans des dispositifs particuliers, mais c'est peut-être ça finalement la chose centrale, ça permettrait, et c'était présent dans le texte de Aristote tiré des politiques, lorsqu'il était question de la compétence de l'usager, ça permettrait de former, de produire une forme de supra-rationalité. En somme, on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et même l'expert dans son cabinet qui travaille sur la question depuis des années et des années, eh ben, peut être mis à mal finalement par l'avis de quelqu'un parce qu'il va présenter un point de vue auquel il n'avait pas du tout pensé. Donc faire participer tout le monde peut produire aussi une supra-rationalité. On est plus intelligent à plusieurs, faut l'espérer, que tout seul.
Eh bien, merci beaucoup Clément. C'est ainsi que s'achève notre série d'émissions consacrée à l'épreuve de philosophie au baccalauréat. Nous souhaitons bien sûr beaucoup de courage et bonne chance à tous les élèves de terminale qui nous écoutent, que ce soit pour l'épreuve de philosophie et pour les autres épreuves évidemment.
Et qui doivent regarder la Coupe du Monde, mais pas trop.
Après la fin des épreuves. Vous pouvez réécouter l'émission sur le site. Et nous nous quittons en écoutant un extrait d'une interview de Castoriadis que Clément, tu as mentionné tout à l'heure, au sujet de la démocratie et du rapport entre démocratie et démocratie directe que nous avons finalement peu mentionné, mais qui aurait pu également être mobilisé pour traiter ce sujet. Merci à tous. Et merci Clément.
Et merci François.
Et la politique chez les Grecs, c'est comment faut-il instituer la société. C'est-à-dire, quelle est la bonne société, quelle est la juste société, et par quelles institutions cette bonne et juste société peut s'incarner. Et la réponse démocratique, c'est que ce n'est que le peuple qui doit vivre sous ces lois qui peut décider de quelles sont les meilleures. Donc ça, c'est la liaison avec la politique qui conduit tout de suite à une liaison avec la philosophie, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais qui aussi conduit par opposition au moderne, alors là, c'est un problème énorme, à l'opposition entre la démocratie directe et ce que les modernes ont inventé comme démocratie représentative. Chez les Grecs, il n'y a pas l'idée de la représentation. Encore une fois, personne ne dit que tout le monde peut à tout moment décider de toute chose. Ou bien il y a les spécialistes, ou bien il y a les magistrats. Mais il y a des magistrats, n'est-ce pas? Ces magistrats ne sont pas des représentants au sens que le peuple a dit, bon, on leur délègue tout pouvoir pendant une certaine période, comme nous faisons, n'est-ce pas? C'est simplement des émanations de la cité qui l'incarnent à certains égards et pour certaines fonctions. Chez les modernes, l'idée de la démocratie représentative va de pair avec ce qu'il faut bien appeler une aliénation du pouvoir, une expropriation, une auto-expropriation du pouvoir, c'est-à-dire la population dit, ben, pendant 5 ans, je n'ai rien à faire sur le plan politique, j'ai choisi 548 personnes qui vont s'occuper de mes affaires, dans le cadre de la Constitution, etc., avec certaines garanties et tout le reste. Le résultat, c'est que pendant ces 5 ans, les citoyens ne sont pas actifs, ils sont passifs. Et même le jour des élections, mais enfin ça c'est une autre discussion, de quoi peuvent-ils décider? On leur présente 2 personnages ou 2 partis, et toutes les options qui vont apparaître pendant ces élections-là sont déjà prédéterminées, bien entendu, par la situation créée pendant les 5 années précédentes. Bon. Alors, bon, il y a là une énorme différence, et une autre différence aussi, qui est dans le terme, enfin pas dans le terme de démocratie, mais dans la conception des Athéniens, des cités démocratiques en Grèce, c'est qu'il n'y a pas d'État, à vrai dire. C'est-à-dire, c'est le peuple lui-même qui est ce que nous appelons État. C'est-à-dire qui est le pouvoir politique. Alors que dans l'imaginaire politique moderne, nous ne sommes jamais sortis, finalement, de la conception qui a été créée par la monarchie absolue. C'est-à-dire qui a là le pouvoir, quelque part, un monstre, le Léviathan, comme a dit Hobbes, ce monstre de temps en temps sort, n'est-ce pas, de sa grotte et demande 10 000 jeunes gens, 40 000 jeunes filles pour les manger, 100 000 personnes pour les tuer, etc., demande l'argent et tout le reste. Nous ne pouvons rien à l'égard de ce monstre. Ce que nous pouvons faire, c'est placer autour de sa grotte des barricades en papier s'appelle les constitutions, qui limitent les prérogatives de l'État.